Dans le Tailgate Weekend, c'est jour de match. 100%
sport, plus de hockey. Avec Simon Le Snake Boisvert, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Comment ça va, mon ami?
Ça va bien, merci. Et toi?
Ça va bien, merci. Et toi, là, quand tu étais à 5 jours du début du championnat mondial de hockey junior, là, est-ce que, je sais pas, t'as fait-tu un calendrier de l'avant, toi, qui arrête le 26 au lieu du 25? Ou...
Non, ben écoute, j'aime beaucoup le spectacle qui est donné durant le championnat mondial junior parce que c'est un tournoi qui est très intense. Cependant, pour quelqu'un comme moi qui aime analyser les espoirs des prochains repêchages, c'est sûr qu'il n'y a pas énormément de joueurs à se mettre sous la dent. Sauf que cette année, c'est quand même intéressant parce que il y a probablement 3 des 4-5 premiers choix qui sont présents dans le tournoi. Ouais. Et en plus, il y a Gavin McKenna, fort possiblement le premier choix de 2026 qui est là. Donc, de ce côté-là, cette année, je suis très, je considère que je suis très comblé.
Ouais, puis t'en as parlé avec Mathias dans le podcast Processus que j'écoutais pas plus tard qu'hier. D'ailleurs, je m'excuse, je l'écoute en retard un peu, mais c'est pour ça que vous en faites un par semaine, qu'on puisse les écouter quand on peut, c'est-à-dire. Il y en a fort probablement un là-dedans qui va jouer à Montréal un moment donné. Là.
C'est ça. C'est très possible. Entre Porter Martone, James Higgins et Matthew Schaefer, c'est possible qu'il y en ait un là-dedans qui soit à Montréal, dépendant à quel rang le CH termine. Je pense que le CH, en date de ce matin, ils ont le 6e choix. Ça, c'est sans compter la loterie, mais c'est très, très serré. Puis il faut considérer que le calendrier du Canadien après Noël devient très, très difficile. Entre Noël, je te dirais, et le tournoi des Quatre Nations, ça va être difficile pour le Canadien de jouer pour 500. Alors, à ce moment-là, ça va consolider leur place probablement dans le top 5. Puis, fort possible qu'un de ces joueurs-là soit à Montréal dès le mois d'octobre.
Il y a eu beaucoup de laissés pour compte également. Puis, on sait, bon, c'est probablement une bonne nouvelle là, de voir ça, qu'il y a des joueurs, par exemple, là, je vais le nommer parce qu'il est dans notre call, mais Michael Hage qui n'a pas été invité au camp d'équipe Canada Junior. Il y en a eu d'autres. Bon, je pense que Beckett Seneca, finalement, va faire partie, mais à la base, il n'avait pas été invité. De laisser ces joueurs-là de côté. Et peut-être que cette formation-là a fait écarquiller des sourcils. Là. Mais toi, tu penses quoi d'un force en présence? Est-ce que le Canada part clairement favori pour remporter ce tournoi-là? On est où dans la compétition?
Le Canada part pas mal toujours clairement favori, peu importe le genre d'alignement qu'ils vont mettre sur la glace. C'est sûr que, comme je mentionne souvent, puis je le sais, je me répète à chaque année, j'ai toujours l'impression qu'on ne met pas les 12 meilleurs attaquants sur la glace. On cherche à former un top 6 et ensuite on crée des rôles pour les joueurs, un peu comme dans la Ligue nationale. Moi, ce n'est pas une philosophie que je préconiserais, mais quand le Canada gagne, les gens me disent « Ah, vois-tu, c'était la bonne recette. » Et quand le Canada perd, ben là, c'est moi qui dis « Ah, vois-tu, c'était pas la bonne recette. » Alors, tu sais, c'est dans le fond, on ne le saura jamais parce que Hockey Canada ne semble pas vouloir appliquer cette philosophie d'avoir, mettons, un Beckett Seneca, par exemple, qui a 18 ans, qui a été choisi au 3e rang et à la place, on choisit un Cole Beaudoin qui a également 18 ans, qui a été choisi 24e, tout simplement parce qu'on voit Beaudoin comme un spécialiste de la défensive. Mm-hmm. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des spécialistes de la défensive dans un tournoi de hockey junior où le Canada a un bassin de joueurs tellement dominant qu'il pourrait faire deux équipes puis les deux équipes auraient des chances de médaille? Mais juste un petit point, vu que tu m'amènes là-dessus sur les joueurs ignorés, je vais parler d'un Québécois, moi, Caleb Desnoyers.
Oui, qui continue de monter dans les rangs.
Oui, moi, je dois te dire qu'en date d'aujourd'hui, puis ça peut changer d'ici juin, il est dans mon top 5. Ouf. Le gars s'améliore de mois en mois. Moi, je considère que c'est une machine de hockey. C'est un gars qui patine, c'est un gars qui est hargneux, c'est un gars qui a une vision, il fait des belles passes, il a un bon lancer, il fonce au filet. Il est toujours en mouvement, bouge les pieds, comme on dit. Pour moi, Caleb Desnoyers, si le Canadien, mettons, choisit autour du 4e, 5e rang, et puis que, mettons, un Schaefer est parti, un Higgins est parti, par exemple, un Michael Misa, il faudrait vraiment, vraiment qu'il considère Caleb Desnoyers, joueur de centre numéro 18 pour Moncton. Très bonne chance que Moncton se retrouve en Coupe Memorial cette année, alors sa saison pourrait se poursuivre jusqu'au mois de juin. Et je pense que plus le temps va avancer, plus Desnoyers va monter dans les classements. Pour moi, c'est le meilleur espoir québécois là, depuis un sacré bon bout de temps.
Alors toi, si, et là, tu as nommé les trois, là, si le Canadien repêche 4 ou 5e, tu as le choix entre, je le connais pas, là, Porter Marton, là, mais je sais qu'il fait énormément jaser. Tu as le choix entre Marton, Desnoyers. Toi, tu prends Desnoyers.
Pour le moment, oui. C'est sûr que ça peut changer d'ici le mois de juin, mais pour le moment, je prends Desnoyers parce que
wow.
Marton, moi, j'ai une préoccupation avec ce gars-là. Je sais qu'il y a 2 points par match dans la Ligue de l'Ontario. Ça, c'est sûr, là, on nie pas son talent, on nie pas sa production. Cependant, c'est un gars qui est très mature physiquement pour son âge. Il est grand, il est gros. Et des fois, j'ai l'impression que dans le hockey junior, c'est un homme qui joue avec des enfants. Mais lorsque tu arrives dans la Ligue nationale, ben là, tu es un homme qui joue avec des hommes.
Ouais.
Puis, Marton, il se laisse glisser. Tu remarqueras, là, dans le tournoi junior, c'est un gars qui se laisse glisser. Je sais que les gros gars n'ont pas besoin de se démener autant que les joueurs de 5 pieds 9. Ça, je l'ai souvent dit. Mais il y a quand même c'est un aspect de son jeu, moi, le rythme, si on peut dire. En anglais, il y a un bon mot, là, c'est « the pace of play ». Tu sais, le rythme du jeu, on dirait que le gars, il n'a pas un rythme Ligue nationale en ce moment. Puis, on sait comment c'est intense dans la LNH. Puis je ne sais pas s'il y a cette intensité-là nécessaire pour devenir une grande vedette.
Mais il y en avait beaucoup qui pensaient la même chose de Brady Tkachuk à son année de repêchage également, si je ne me trompe pas. C'est pour ça qu'il a glissé un peu, là.
Oui, exactement. Ben, Tkachuk est quand même parti 4e, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, j'avais ces doutes-là. Moi, ce que Tkachuk, ce que j'aimais moins de lui, c'est que je trouvais que c'était un ailier de corridor. C'était un gars, mettons, qu'il restait sur son côté. Puis il faisait de haut en bas, là, tu sais, sur la glace. Puis, à un moment donné, ben, il laissait tout le monde fabriquer le jeu pour lui. Puis après ça, ils font ça au filet, puis ils comptaient un but. Et on voit que dans la Ligue nationale, Tkachuk est beaucoup plus intense que ça.
Ouais.
Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec ces jugements-là. Sauf que les joueurs sont repêchés à l'âge qu'ils sont repêchés. On ne les repêche pas à 23 ans. Donc, moi, tu me demandes mon opinion aujourd'hui de Marton. C'est l'opinion que je vais te donner. Elle peut changer. Lui aussi peut me faire mentir dans la LNH. Mais honnêtement, je prendrais Desnoyers avant Marton.
Je t'amène sur les adversaires du Canadien d'hier et de ce soir également, les Red Wings de Détroit. C'est deux équipes qui sont en reconstruction, qui sont pas supposées être à la même place dans leur reconstruction. Puis quand on se parlait cet été, Simon Le Snake Boisvert, t'avais mis le Canadien dans le top 5 des meilleures équipes qui réussissent leur reconstruction et... Oui. Les Red Wings dans le top 5 des pires équipes, eux autres, dans leur reconstruction.
Quand tu regardes... Je me rappelle.
Ben oui, puis c'était super le fun, ça, qu'on avait fait comme série de chroniques. Aujourd'hui, tu as regardé le match, j'imagine, entre les deux équipes hier, tu vas regarder ça tantôt aussi. T'en es où là-dedans quand tu compares les deux, là, cette saison présentement? Comprends-tu ma question?
Ben, Détroit est pire que jamais. Fait que désolé pour les partisans des Red Wings qui nous écoutent. Là.
Salut mon ami du secondaire, Oli, qui est le plus grand partisan des Red Wings de Détroit qui est beau au Québec.
Ben écoute, Oli, j'ai rien contre les Red Wings. Là. Ils m'ont rien fait personnellement. Mais moi, je dois analyser les alignements, les reconstructions, l'avenir. Je trouve que Steve Yzerman fait un travail exécrable. Et puis, je pense que s'il ne s'appelait pas Steve Yzerman, on ne l'aurait pas gardé. À moins qu'il ait reçu des ordres du propriétaire. Mais c'est vraiment ridicule depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, ils étaient partis, eux autres, ils étaient bien partis. Ils avaient repêché des bons joueurs. Luca Raymond, Moritz Seider. Et là, on dirait qu'à un moment donné, à l'été 2023...
On dirait qu'on les développe pas, Snake.
Yzerman s'est dit, ah, là, la reconstruction est finie, ça nous prend des vétérans. Alors là, il a signé Andrew Kopp, il a signé Patrick Kane, il a signé un paquet de joueurs. Puis on voit que c'est un mix qui ne fonctionne pas. Moi, je les regardais jouer hier, puis tu sais, je les trouve vraiment, vraiment pas impressionnants. Puis tu vois qu'il n'y a pas beaucoup d'amélioration possible. Et il y a beaucoup de jeunes joueurs. Tu sais, on dit toujours que le bassin d'espoir est un des 2 ou 3 meilleurs en ce moment. Mais j'aimerais ça les voir arriver, ces jeunes joueurs-là. Ça revient à ce que tu me dis. On les développe mal, on ne les développe pas. Mais ces gars-là n'arrivent pas. Puis là, tu dis, OK, ben là, c'est toujours Seider, Raymond. Mais à un moment donné, ça fait longtemps, là, Seider, Raymond. Il va falloir qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Je déteste pas Marco Kasper.
Edvinson.
Pardon?
Edvinson.
Je déteste pas Edvinson, mais encore là, j'ai pas aimé certains de leurs choix, comme Nate Danielson au repêchage de 2023. En tout cas, pour moi, c'est une reconstruction. C'est vraiment un modèle de reconstruction raté. Puis, je pense pas que les Red Wings, dans les 5-6 prochaines années, vont me faire mentir. C'est une équipe qui, au mieux, va se retrouver au milieu du peloton. Puis, c'est dommage. C'est dommage parce qu'ils avaient bien commencé. Ils avaient tout démoli l'équipe. Ils avaient fait le ménage, ouais, dans les, la masse salariale, un peu comme le Canadien fait. Mais le Canadien, pour donner ça à Kent Hughes, là, il n'y a pas un directeur gérant qui est parfait, mais il y a au moins la qualité que il y avait un plan, il le suit et il n'en démarre pas, malgré les critiques, malgré la pression, malgré les demandes parfois des partisans et des médias qui veulent qu'il aille chercher tel ou tel joueur. Chaque geste est fait de façon à ne jamais, jamais, jamais nuire à l'avenir du CH.
Mais parlant de gestes, Snake, vous avez enregistré Processus avant que la transaction Justin Barron contre Alex Carrier arrive. Pas certain qu'Alex Carrier était un des espoirs que tu surveillais énormément. Là. Je veux dire, il a passé beaucoup de temps dans la Ligue américaine. Maintenant, c'est un défenseur établi dans la Ligue nationale, un top 4. Il joue avec Roman Yossi à Nashville. Tu penses quoi de cette transaction-là? Et en fait, en sous-question, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nos chers auditeurs qui se la posent, celle-là. Est-ce qu'on a démissionné trop vite dans le cas de Justin Barron aussi?
OK. Je vais répondre à la question en premier. Non, on n'a pas démissionné trop vite.
Formidable, on est d'accord. Rien contre Barron, là, mais on est d'accord. Non.
Ben moi, je l'aimais Barron. Hein. Je l'aimais. Je l'avais fait en première ronde, début deuxième ronde. Je te dis pas que c'était une de mes idoles de jeunesse. Là. Je veux dire. Mais j'avais aimé la transaction à l'époque qui avait amené Barron à Montréal. Parce que je trouvais que c'est un gars qui patinait, qui avait un bon potentiel offensif. Puis il était dynamique. Et puis je me suis dit, ben écoute, ça pourrait faire peut-être un bon défenseur numéro 4 ou numéro 5 à Montréal. Et puis, qui était jeune en plus. Mais là, moi, oui, j'ai démissionné. Et c'est sûr qu'habituellement, moi, je vais toujours être contre une transaction qui donne un jeune joueur pour un joueur plus âgé lorsque tu es en reconstruction. Sauf que Alex Carrier, je considère qu'il y a un style de jeu à son âge que justement, il pourrait faire partie du noyau du Canadien dans les 6-7 prochaines années. Un peu comme je pensais pour Patrick Laine, c'est pas décidé encore, mais c'est pas des joueurs que Kent Hughes est allé chercher qui sont au bout du rouleau. Puis Carrier, ce que j'aime, c'est que c'est un bon hybride. C'est un gars qui est très, très stable défensivement, mais en même temps, il n'a pas peur de se porter en attaque si nécessaire. Donc là, il réorganise un petit peu l'échiquier du CH à la défense pour les prochaines années, parce qu'on sait que tous les espoirs ne réussiront pas. Tu sais, on le voit, là, Logan Mailloux, sa tendance n'est pas à la hausse en ce moment. Donc, il n'y a vraiment pas là, de garantie
que Logan Mailloux... C'était mon prochain sujet, ça-là.
Oui, c'est ça. Alors, je pense que Carrier, lui, il a encore 2 ans de contrat. Si ça va bien, moi, je le re-signerais. Et puis, ça ferait un bon mélange jeune-vétéran. Tu sais, souvent, on dit, il faut aller chercher les vétérans. C'est vrai qu'il faut aller chercher les vétérans, mais il faut aller chercher les bons vétérans au bon moment et au bon prix. Puis, je pense que Carrier est exactement le genre de vétéran que tu dois aller chercher, surtout que David Savard, d'après moi, va quitter. Si ce n'est pas cette année, ça va être l'an prochain qu'il va quitter. Donc, ça prend quand même un équilibre là, à la défense. Il y a Randbacher qui va arriver. Fait que, tu sais, on est en train de positionner les chaises là, à la défense. Alors, pour moi, excellente transaction. Nashville, d'après moi, voulait larguer du salaire. Il sauve 2,5 millions par année. Sauf que Nashville, je ne comprends plus le plan. Il y avait un plan l'été passé. Si on peut appeler ça un plan, mais là,
tu me fais plaisir quand tu me dis ça. Je viens juste d'en parler tantôt en disant c'est Barry Trotz veut libérer du salaire parce que lui-même en a donné trop, puis là, on comprend plus pantoute c'est quoi le plan là, de ce qui se passe là-bas.
Ben, Barry Trotz a peut-être atteint le principe de Peter. C'était un excellent coach qui a gagné la coupe.
Ouais.
Et peut-être que comme directeur gérant, ben, c'est pas fait pour lui. Alors, en tout cas, on verra, mais chose certaine, ça augure pas très bien à Nashville, à part qu'ils vont peut-être aller chercher le premier ou le deuxième choix au prochain repêchage.
Ouais, on verra. Peut-être qu'un James Higgins va venir tout stabiliser là-bas, puis avec des vétérans comme Stamkos et Marchessault, ça va l'aider à se développer. On verra. On s'attendait pas à ça, mais on verra. Écoute, avant de te laisser, Snake, je dois te poser la question du jour qu'on a, parce que ça fait partie de ce que vous jasez dans le processus. On a Jake Evans ici, qui connaît la saison de sa carrière, qui est formidable dans son rôle. Encore hier, on a pu le voir, et là, on se pose la question, on l'échange, on le signe, si oui, à combien? Il y a plusieurs de nos auditeurs qui parlent, disent, oubliez ça, là, donner 3,5, 4 millions à Jake Evans pour quelques saisons parce que Owen Beck s'en vient. Moi, j'ai tendance à dire, c'est bien beau Owen Beck, mais on ne sait pas ce qui peut nous amener Owen Beck, tandis qu'on sait ce que nous amène Jake Evans présentement. Quelle est l'opinion du seul et l'unique Snake là-dessus?
Ouais. Oui, ben, il y a plusieurs branches là, à mon opinion, là, parce que, évidemment, la nuance qu'on doit apporter, c'est qu'il y a un plafond salarial maintenant. Si on était avant 2005, je te dirais, écoute, re-signe Jake Evans, donne-y, je ne sais pas moi, 2,5, 3 millions, puis donne-y 4, 5 ans, puis tout est beau. Comprends-tu? Sauf que là, avec le plafond salarial, il faut que tu minimises tes erreurs et il faut que tu maximises surtout l'argent que tu as à ta disposition. Un gars comme Jake Evans, en ce moment, il n'a jamais eu une valeur aussi élevée. Son agent doit saliver en ce moment. Mais la question est de savoir, c'est un gars qui a 28 ans, ça demeure un joueur de soutien. Et les joueurs de soutien, historiquement, parfois ont des pics, tu sais, vraiment des saisons de carrière, là, ce que Evans est en train de connaître. Et après ça, ben, ils vont signer des gros contrats et, oups, la production diminue tranquillement. Donc, ils ont signé, ils ont obtenu le contrat au bon moment. Moi, je pense qu'Evans, c'est une situation où ça serait quand même un risque d'arriver puis de donner un 3,5, 4 millions pour 4, 5 ans à un joueur comme ça. Surtout qu'il demeure un joueur de soutien et à un moment donné, tu as besoin de ta masse salariale, tu as besoin d'argent pour signer tes vedettes. Mmh. L'argent, elle va aux vedettes. Alors, tu dois faire des sacrifices, puis un des sacrifices que tu dois faire, ça doit être avec tes joueurs de soutien, surtout si tu es un remplaçant potentiel. Est-ce que Winbeck est un remplaçant potentiel? Moi, je crois que oui. Quoique moi, je ne vois pas Winbeck plus qu'un gars de quatrième trio, mais qui peut tuer des punitions, mais c'est correct. Là. Même si le gars joue 10 minutes par match, c'est ça qu'on lui demanderait. Alors, j'aurais tendance, moi, à laisser aller Evans et à faire confiance peut-être à Beck ou à un autre joueur que tu peux signer pour moins cher, 1,5 million. Mon feeling, c'est que le Canadien va le re-signer, mais à prix raisonnable. Et ce que j'entends par prix raisonnable, je serais surpris qu'on dépasse le 2,5 millions.
Ouf.
Mais c'est juste un feeling que j'ai, là, je suis pas...
Écoute...
Je suis pas dans la tête de Ken Hughes, là.
J'aime ça, j'aime ça ton opinion. Tu viens de... Écoute, t'as détruit complètement mon argumentaire, puis c'est bien correct comme ça. C'est pour ça qu'on a du fun à jaser ensemble.
Ouais, mais c'est peut-être toi qui vas avoir raison, tu sais.
Ben, écoute, hey, si j'ai raison...
On verra, ça prend des années, tu vois, les prédictions qu'on fait... Là,
je te texterai.
Ça prend des années avant de savoir si on a raison ou pas. Alors, exact. Sur le moment, ça suscite des réactions, bonnes ou mauvaises, de la part des auditeurs, puis c'est correct, on s'amuse. Mais en même temps, le vrai résultat, c'est toujours dans 4, 5, 6 ans que ça se passe.
Hey, merci, Simon, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est fort apprécié. Bon match ce soir, puis on se reparle très bientôt, mon ami.
Merci, Greg. Joyeux Noël.
On va se parler avant Noël, je pense. Là. Nous autres, on est en onde tout le temps des fêtes, mais okay. C'est certain que le téléphone va sonner. On ne peut pas passer un championnat mondial junior sans te parler, mon chum. Là.
Super. À la prochaine, Greg.
Salut, le Snake. Voilà, Simon, le Snake Boisvert.